Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chaire civilisation de l'Égypte pharaonique.
Bonjour à tous. Alors, dans le cours précédent, vous en souvenez, nous avions commencé à traiter du thème de la négociation diplomatique dans un monde multilingue, en nous intéressant en premier lieu à la correspondance diplomatique et à la manière dont elle était reliée étroitement au monde de la cour pharaonique. Cela nous avait amené à évoquer le lien entre les capitales pharaoniques successives, Memphis, Amarna, Pi Ramsès, leur structure palatiale et la gestion de la correspondance diplomatique. Nous avions terminé, vous vous en souvenez, par le cas de Pi Ramsès, hein, dont les vestiges sont apparus dans le secteur de Kantir, hein, dans le delta oriental, au prix de fouilles rendues complexes par les occupations modernes de la zone. Alors, avant de reprendre cette question de la chancellerie de Pi Ramsès, qui nous restait à terminer, je voudrais signaler un document en lien avec l'analyse que nous avions fait de la présence de représentants commerciaux étrangers. Vous vous en souvenez, nous avions vu qu'avaient été retrouvés à Kantir plusieurs éléments d'encadrement de portes au nom d'un personnage nommé Ipuabal, grand dignitaire, Our, hein, c'est la traduction du mot Our, hein, qui est ici conventionnel, donc grand dignitaire de Sidon, donc métropole commerciale cananéenne. Peu après la publication de ces éléments, donc intervenu en 2014, un autre document est venu faire écho à ceci, dans les mélanges offert à Pascal Vernus, paru en 2016, Hans Werner Fischer-Elfert a publié un ostracon contenant un passage d'un extrait d'hymne qui peut être attribué à un éloge de la ville de Pi Ramsès, tel qu'on en connaît d'autres, notamment dans les miscellanées. Donc le genre de l'éloge de la ville est bien connu dans l'Égypte ancienne, et on a quelques cas de textes concernant donc cette capitale du Delta, Pi Ramsès, à l'époque ramesside. Alors, le texte de cet ostracon est difficile, car fragmentaire, mais certains passages sont mieux conservés. Alors, je n'ai pas repris toute la traduction du texte qui n'est pas forcément limpide, mais j'ai sélectionné quelques extraits plus clairs. Donc, une introduction au toit, donc on s'adresse à la ville, avant-poste de tous les pays étrangers, toit arrière-pays de l'Égypte. Une phrase nous dit « agréable est le lieu de distribution » ou le marché, hein, littéralement c'est le lieu de la répartition, « grâce à son argent ». Et enfin, la dernière phrase, « les chefs » donc c'est Nahuru, de chaque pays étranger viennent apporter leurs produits. Alors, ce qui rend les choses interprétables, c'est que la phrase introductive du texte a un parallèle dans l'éloge de Pi Ramsès du papyrus Anastasie III, donc, qui avait été publié par Gardiner et puis Kaminos sous le titre « Praise of Delta Residents ». Donc ce texte concerne donc directement la description de la ville de Pi Ramsès. Ici, on évoque donc un lieu de marché, hein, de répartition des biens, et puis on évoque aussi les ourous, hein, les grands. Et Fischer-Elfert est tenté d'interpréter ce mot non pas dans le sens de dignitaire, potentat local des pays étrangers, mais comme évoquant un représentant commercial de la même manière que l'avait fait Edgar Puch pour le grand de Sidon. On aurait ici donc une évocation de ces hauts personnages chargés de transactions commerciales qui se déplacent donc à Pi Ramsès pour vendre ou échanger leurs biens. Fischer-Elfert note aussi qu'il s'agit là d'un texte exceptionnel dans le cadre du genre de l'éloge des villes, parce que l'évocation louangeuse qui est faite d'un centre de commerce international et un centre d'échange ne se trouve pas ailleurs dans le genre de l'éloge des cités. Donc on aurait ici à la fois une confirmation de cette nature cosmopolite et d'intense activité commerciale internationale concernant la ville de Pi-Ramsès, et puis aussi un document supplémentaire pour comprendre ce titre de Our qui était appliqué à notre personnage de Sidon. Alors, en passant, je vous signale que sur Pi-Ramsès comme ville de contact intense avec le Proche-Orient et plus largement sur la question du multilinguisme et des contacts de population en Égypte au 3e et au 2e millénaire, donc vous avez une référence toute récente dans un article de Juan Carlos Moreno García, Multilingualism, Society and Population Contact in Ancient Egypt, dans un volume intitulé The Handbook of Multilingualism, Identity and Language Endangerment in Africa en 2025. Mais revenons à la question de la correspondance diplomatique qui nous avait intéressé en dernier lieu la semaine dernière. Et on s'était arrêté juste après avoir présenté une tablette cunéiforme fragmentaire issue du site de Kantir, qui, même si elle est très isolée, témoigne à elle seule de la présence d'une chancellerie associée à la capitale Ramesside. On peut évidemment postuler qu'il y avait bien d'autres de ces documents dans ce secteur. Une autre source pour la connaissance de la chancellerie diplomatique à Pi-Ramsès doit être cherchée non pas à Pi-Ramsès même, mais à Thèbes, dans une tombe de la rive ouest, la TT23 à El Hora. Et cette tombe appartient à un certain Chai. Dans cette tombe, on a une représentation de chancellerie qui est très célèbre, qui avait été publié par Borchard dans un article datant de 1907 et qui est sans cesse reproduit depuis. Alors on attend une édition plus moderne de la tombe qui est très dégradée, et on espère qu'on pourra avoir un accès complet à la documentation de ce tombeau rapidement. Alors Chai porte le titre de scribe royal de la correspondance du maître des deux terres, donc c'est la deuxième partie du titre, et scribe des mémoranda, c'est Raou, du dieu parfait, et il a vécu sous le règne de Meremta, donc 19e dynastie, à la fin du 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous ai mis la transcription ici de ces titres dans l'édition des Kaeri de Kitchen, qui reprend une partie des textes de la tombe. Alors dans cette tombe, on a une représentation d'un grand bâtiment avec trois parties distinctes. Dans la partie centrale, donc on voit le personnage en train d'effectuer des rituels. Dans la partie droite, ici, vous avez trois pièces avec au centre une pièce dédiée au culte de Thoth, sous sa forme de babouin. Et il est appelé du nom spécifique de Thoth de la place de correspondance de Pharaon, vie, santé, force. Donc ici, c'est les lettres, la place des lettres, donc la place de la correspondance du pharaon. Donc ce dieu Thoth, ce dieu de l'écriture, est associé directement à la pratique de archivistique et la pratique aussi de la rédaction des lettres qui est réalisée dans ce bâtiment. Alors, de part et d'autre de la chapelle du dieu Thoth, vous avez deux pièces, ici, qui contiennent, vous le voyez, des coffres. Hein, et ces pièces portent une légende, Seth Sechou, la place des écrits, donc qui servait de lieu de stockage aux produits, enfin aux réalisations des scribes, donc papyrus, tablettes, difficile d'avoir une vision plus précise. Mais en tout cas, là, on a clairement quelque chose qui doit ressembler à ce que nous avions vu à Amarna, comme le Record Office, hein, donc cet lieu de la correspondance de Pharaon, donc représenté avec une série de coffres contenant ses écrits. Alors, de l'autre côté, donc dans la partie gauche, on voit une série d'espaces qui étaient réservés à la pratique quotidienne des scribes. Et donc, on voit une série de scribes en activité, en train de rédiger des documents. Certains sont aussi se consultent, hein, autour d'un document qui est en train d'être finalisé, probablement. Les autres sont affairés à rédiger les textes. Alors, donc, on a ici une représentation très rare d'un bureau de la chancellerie diplomatique. Le nom est encore donné dans cette colonne de texte qui se trouve ici dans le couloir desservant les différentes parties du bâtiment. Hein, donc, c'est la place de la correspondance de Pharaon, vie, santé, force. Et ce qui est une indication aussi fondamentale dans cette inscription, c'est qu'on a la localisation de la chancellerie, hein, qui n'est pas à Thèbes, mais qui est à Pi-Ramsès Myriamon, le grand cas de Réorarti, donc une désignation développée de la capitale ramesside dans le delta. Donc, ce personnage, Tchai, était responsable de cette chancellerie pendant une grande partie de sa carrière à Pi-Ramsès, dans le delta, et c'est uniquement donc à la fin de sa vie qu'il s'est fait aménager à Thèbes cette tombe où il commémore en quelque sorte ce qui correspondait à une grande partie de son cursus, hein, de sa carrière, donc cette direction de la chancellerie diplomatique de Pi-Ramsès. Alors, malheureusement, je le disais, on n'a que peu de détails sur le reste de la tombe. On manque d'une édition complète. On n'a même pas de couverture photographique qui permette véritablement de vérifier les détails des scènes qui sont souvent commentées. On a quand même quelques rapports publiés par une mission russe qui s'est intéressée donc à cette tombe, hein, par Sergueï Ivanov, qui publie dans un des rapports plusieurs photographies de la tombe, et notamment celle-ci, où on voit Tchai les bras en adoration devant son autobiographie. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette autobiographie, elle n'est pas gravée, comme c'est l'habitude, en écriture hiéroglyphique, mais elle est gravée en écriture hiératique, donc beaucoup plus cursive, qui correspond à la manière dont, au quotidien, Tchai pratiquait la rédaction de ses lettres, hein, de cette correspondance diplomatique. Alors, ici, évidemment, on parle des modèles égyptiens, hein, pas des textes ensuite traduits en cunéiforme. Alors, bon, certains ont pu penser que, faute de temps, on avait choisi l'hiératique terminer cette paroi. Il est beaucoup plus probable que le choix du hiératique corresponde à une volonté du personnage d'illustrer en quelque sorte sa pratique de rédaction quotidienne des documents de la chancellerie. Donc il est placé devant un document qui a donc toute l'apparence d'une lettre. Malheureusement, il faudra attendre l'édition de ses parois pour connaître plus en détail la nature de ce texte. Dans un texte autobiographique présent dans la tombe, malheureusement lacunaire, on a probablement aussi une allusion aux activités de Tchai dans la chancellerie. Bon, là, vous voyez, le texte dans la publication de Kitchen est aussi très lacunaire, mais dans un des passages, le personnage nous dit « Je suis quelqu'un que le Dieu parfait, Sa Majesté, a éduqué ». Donc on retrouve des formules que l'on avait déjà rencontrées à propos d'autres courtisans, hein, cette manière de dire qu'ils ont reçu une éducation directe du pharaon, qu'ils ont été formés à proximité du roi. Un passage ensuite lacunaire, et ensuite il nous dit R. Semi, Senen, pour rendre compte probablement du registre de tous les pays en agissant de manière correcte. Donc là, on évoque une activité de rapport sur l'état de la situation dans tous les pays, hein, qui correspond peut-être à ce travail quotidien de la chancellerie, qui produit à la fois la correspondance diplomatique, mais aussi, ce qu'on avait vu tout à l'heure, des mémorandas pour le pharaon à propos de la situation internationale et de l'ensemble, évidemment, de la situation politique interne. Alors, sur ce personnage, Tchai, on connaît aussi quelques éléments de sa vie antérieure à son activité de chef de la chancellerie, comme l'a notamment rappelé Kitchen dans un article du Bulletin of the Australian Centre for Egyptology en 1991. Tchai est déjà attesté sur une stèle provenant des petits souterrains du Sérapéum et datant du règne de Ramsès II. C'est la stèle Louvre N412, et il est représenté donc au registre inférieur comme un scribe au service de son maître, qui est lui représenté au registre supérieur. C'est le prince royal, le prince Meremta, qui officie ici auprès du taureau Apis. Donc c'est une charge qu'il a hérité après le décès donc de son frère aîné Rahemouasset. Donc on est après l'an 55 du règne de Ramsès II. On voit donc ici que Tchai sert en tant que scribe de conseiller rapproché de l'héritier du trône, Meremta, et sa proximité avec le futur pharaon va forcément jouer un rôle dans le fait qu'il obtienne ensuite cette charge de responsable de la chancellerie royale. Alors, tout cela nous amène évidemment à considérer cette position de responsable de la correspondance diplomatique du pharaon comme une position centrale dans l'administration royale, et elle échoit forcément à un courtisan qui a la pleine confiance du pharaon, puisque toutes les informations sensibles concernant la politique interne et externe du royaume passe entre les mains de ce personnage. Alors, il faut signaler aussi que concernant cette chancellerie, les fouilleurs de Pi Ramsès ont pu établir un rapprochement avec une structure qui a été identifiée sur le site. Hein, donc c'est une structure qui se trouve ici dans ce secteur, hein, qui porte le code Q5, donc à proximité de la zone où se trouvent de vastes écuries royales, on l'avait évoqué la semaine dernière. Voilà un plan un peu plus détaillé. Donc la zone Q5 se trouve juste en dessous de cette zone des écuries, donc dans la partie sud de Cantir. Vous voyez ici le plan général avec les zones palatiales telles qu'elles ont été identifiées par les fouilleurs. Alors dans cette zone Q5, les prospections magnétométriques et les fouilles qui ont été menées ont permis d'identifier un bâtiment construit en briques crues qui se compose d'une salle à colonnes centrales avec 6 bases de colonnes sur 2 axes parallèles dont le sol est fait de briques crues recouvertes d'un enduit blanc. Cette salle était entourée de pièces annexes, reliées entre elles et à la salle à colonnes par des portes. Alors, les fouilleurs déplorent malheureusement qu'aucun objet significatif n'a été découvert à cet endroit. Alors, Push en déduit que le plan du bâtiment présente dans l'ensemble une grande affinité avec le célèbre relief du Bureau des Affaires étrangères de la ville de Ramsès dans la tombe de Tchaï, TT23. Il précise simplement qu'il faut évidemment considérer que les éléments architecturaux contenus dans l'image magnétique appartiennent à une même couche de construction et que le relief ne présente pas une représentation à l'échelle du bâtiment qui existait autrefois, ce qui fait beaucoup, évidemment, de conditions. Alors, malheureusement, en dehors de l'apparence générale du bâtiment, il n'y a aucun élément tangible pour établir un lien direct entre cette découverte et la chancellerie. C'est évidemment une possibilité, mais qui reste, évidemment, de la pure hypothèse, puisqu'elle ne s'appuie que sur des ressemblances structurelles finalement peu convaincantes. Mais en tout cas, c'est une indication que ce type de bâtiment à colonnes, tel que représenté dans la tombe de Tchaï, pouvait exister sur le site. Alors, quoi qu'il en soit, nous disposons de suffisamment de sources désormais pour établir le fonctionnement d'une chancellerie diplomatique à Pi-Ramsès, donc qui soit en lien direct avec la politique internationale des pharaons des 19e et 20e dynasties. Les réceptions des ambassades se faisaient, on l'avait vu, dans les palais de ce site, du Delta, et les diplomates égyptiens possédaient sur place une résidence et ou un bureau qui leur permettait de participer donc directement à la gestion de ses affaires. Le statut de responsable de la chancellerie, Tchaï, proche de Meremta, est un indice supplémentaire pour montrer que cette institution était un endroit particulièrement stratégique dans la capitale ramesside. Alors, est-ce qu'on peut maintenant préciser davantage la position, donc de la place qu'occupe le scribe de la correspondance royale dans la hiérarchie de la cour pharaonique au Nouvel Empire? Est-ce que ce titre que vous voyez ici, donc scribe royal de la correspondance du maître des deux terres que porte Tchaï, est un titre élevé au sein de l'organisation générale de l'État égyptien et de sa cour? Alors évidemment, nous n'avons pas de documentation suffisante pour une même période et de témoignages qui seraient comparables à celles des mémoires de Saint-Simon, hein, qui nous seraient bien utiles pour la période pharaonique, qui permettraient de répondre véritablement à la question de l'organisation hiérarchisée de la cour égyptienne dans sa complexité. Et vous avez bien noté aussi que j'ai soigneusement évité de me lancer dans de telles reconstitutions, hein, mais qui sont certes utiles à titre d'hypothèses historiques, mais qui ne rendent que peu compte de la dynamique en fait qui se joue autour du pharaon et de la mobilité constante des positions à la cour. Néanmoins, nous avons une source d'information qui fournit une vision normative de la cour, et nous allons profiter de la question posée au sujet de ce scribe de la correspondance pour présenter de manière quelque peu détaillée ce document qui, bon, vous le verrez, s'il ne fournit pas une clé miraculeuse à la compréhension de l'organigramme de l'entourage royal, permet tout au moins d'entrer dans la logique égyptienne de hiérarchisation des fonctions. Alors ce document, c'est une liste encyclopédique, un inventaire du monde datable de la fin du Nouvel Empire, connu sous le nom d'Onomasticon d'Amenemopée. Cet onomasticon appartient à un genre de liste lexicale connue depuis le Moyen Empire. L'édition de référence, c'est celle d'Alan Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, œuvre magistrale qui regroupe la plupart des attestations. D'autres sont apparues postérieurement et ont été publiées notamment par François Herbin, donc pour un manuscrit du British Museum, et par Ilona Regulski et Suzanne Beck dans un volume tout récent où elle publie quelques textes, enfin un fragment de texte supplémentaire conservé également au British Museum et qui a l'air de se rapporter aux plus anciens témoignages de ce texte, donc, qui daterait de la 20e dynastie, situable sous Ramsès IV. Bon, vous trouverez des éditations sur la date entre la fin de la 20e et 21e dynastie. Grâce à ces éléments, on peut quand même donner une indication sur l'existence de cet onomasticon dès le règne de Ramsès IV. Donc vous avez ici la liste des sources avec des très beaux documents comme le nomasticon Golenichev ou alors le papyrus, ce qu'on appelle le papyrus Oud, hein, dont vous avez ici la photo, qui date du début de la 21e dynastie, donc qui est conservée aussi au British Museum. Donc ce texte de l'onomasticon d'Amenemopée, vous le voyez, est connu par différents types de sources, papyrus, rouleaux de cuir, ostraca, tablettes en bois, donc qu'on peut caler entre la 20e dynastie jusqu'à la 3e période intermédiaire. Alors ce document, c'est en fait une liste de 610 entités classés par ensemble thématique. Alors, on a d'abord une introduction hein, qui montre que ce texte relève du genre de l'enseignement, hein, qu'on a vu largement, notamment l'année dernière, hein, donc le genre des textes sapientiaux, des sébaïtes, qui servaient notamment de support à l'enseignement scolaire. Le texte commence ainsi, début de l'enseignement pour délier l'esprit, Hura Ib, pour former l'ignorant, pour connaître tout ce qui existe, qui a été façonné par Ptah et transcrit par Thoth, le ciel et ses affaires, la terre et ce qui s'y trouve, ce que les montagnes portent, ce qui est inondé par le flot, toutes les choses sur lesquelles Ré a brillé, tout ce qui pousse sur le dos de la terre, établi par le scribe du rouleau divin de la maison de vie, Amenemopée, fils d'Amenemopée. Il dit, et puis là commence en fait l'enseignement, qui n'est pas fait comme la plupart des enseignements de préceptes, mais d'une énumération d'entités classées thématiquement. Donc on a d'abord l'eau, le ciel et la terre. Donc vous avez le début de la liste ici, ciel, soleil, lune. Hein, vous voyez ici les premiers termes. Ensuite, on a une section qui concerne personne, cours, fonction, profession, ce qui nous intéressera particulièrement ici. Classe, tribu, type d'être humain ensuite, les villes d'Égypte, les bâtiments, leurs parties et les types de terres, la terre agricole, les céréales et leurs produits. Huitième section, ce sont les boissons. Et enfin, neuvième section, partie d'un bœuf et type de viande. Vous voyez, c'est un inventaire qui peut sembler être un inventaire à la Prévert, assez hétéroclite, mais qui se veut englober toute une série de réalités qui vont être directement nécessaires dans la pratique scribale. Et donc, cette maîtrise du lexique est aussi une maîtrise du monde pour les apprentis scribes. Donc, c'est évidemment donc la section 3, personne, cours, fonction, profession, qui va nous intéresser plus particulièrement. Dès la fin du XIXe siècle, Gaston Maspero, qui avait transcrit l'un des manuscrits de l'Onomasticon d'Amenemopée, hein, le papyrus Oud, que vous avez vu en photo tout à l'heure, donc Maspero s'était particulièrement intéressé à cette section personne, cours, fonction, profession, et lui avait consacré un de ses cours au Collège de France entre février et mai 1887, donc ça fait quelques années, qu'il a publié sous le titre « Un manuel de hiérarchie égyptienne ». Donc vous voyez l'introduction de sa publication hein, dans le journal asiatique. Il explique que vers le mois d'octobre 1877, M. Wilbur lui a remis la photographie de deux papyrus du British Museum. Entre-temps, il a appris que Henri Brux était en train de travailler sur le texte, donc il l'avait laissé sur le côté, mais pour faire ses cours, il a été amené à reprendre le dossier, et voyant que la publication de Brux n'était pas parue, il s'est décidé donc à la publier. C'est le résultat de ce travail qu'il ensuite publie dans le journal asiatique, avec une transcription hiéroglyphique du texte. Donc vous avez juste la fin ici, et donc je vous ai mis ici la fin de la liste, confiseur de dattes, fabricant de couronnes et bouquets, porteur de lait, charpentier, graveur, tailleur de pierres, fondeur, porteur, cordonnier, du roi, fabricant, donc de cette liste des professions auxquelles il s'est intéressé. Et il concluait en disant « Tel est ce document, on reconnaît à première vue qu'il se partage en groupe, dont tous les membres s'échelonnent hiérarchiquement, de haut en bas, mais dont la séparation ne se fait pas toujours aisément. » Donc Maspero voit dans ce texte une mise par écrit de la hiérarchie des hautes fonctions de l'État qui s'inspire de l'organisation instituée par le dieu Thoth au bénéfice d'Horus. Et il explique aussi l'introduction où on mentionne Ptah et Thoth par le fait que les hommes en fait reproduisent une organisation hiérarchique de la société qui leur est héritée des dieux. Et donc cela nous ramène aussi au jeu de miroir qui existe entre le monde divin et le monde humain que nous avions évoqué lors du premier cours. Alors, un grand spécialiste de l'administration égyptienne, Oleg Berlef, a repris l'appellation de Maspero pour ce texte, hein, ce manuel de hiérarchie, en le réanalysant. Pour lui, donc, ce texte présente un spectre entier de grades, distinctions, dénominations de professions. Depuis l'héritier du trône, y accèdent les membres de la famille royale en tant que tels, sans lien avec l'administration, jusqu'aux ouvriers agricoles, aux jardiniers, aux laboureurs, à l'horticulteur, aux palefreniers. Donc c'est la fin du texte que l'on a vu. Pour Berlef, l'ensemble de ce texte concerne les fonctionnaires qui sont attachés à la maison du roi. Et donc c'est ce qui fait le point commun de l'ensemble de ces entités, de ces titres, dans la liste. Pierre Grandet, plus récemment, en 2013, dans un article consacré à l'état ramesside dans l'ouvrage collectif de Juan Carlos Moreno Garcia consacré à l'administration égyptienne, Pierre Grandet a repris aussi ce texte en l'utilisant évidemment pour mieux définir le fonctionnement de l'État et de l'administration égyptienne. Il insiste aussi sur le caractère hiérarchisé des données listées. Pour lui, évidemment, c'est une liste qui a la particularité de ne pas avoir, de donner des termes mais sans définition. Mais ce qu'il explique, c'est que l'ordre n'étant pas arbitraire, eh bien, c'est évidemment l'organisation hiérarchique des entités qui est en elle-même facteur de compréhension de ces éléments dans leur présentation. Donc la hiérarchie des termes vaut en quelque sorte pour l'équivalent d'une définition différentielle en quelque sorte des termes les uns par rapport aux autres. Alors, il caractérise cette section de l'onomasticon, personne, cour, fonction, profession, comme une notitia dignitatum de l'Égypte ramesside, donc ce qui permet une sorte de mode d'emploi des fonctions, hein, des titres de l'Égypte à l'époque ramesside. Elle permet de connaître donc la strate supérieure de la société, à commencer par les dieux et ensuite tous les autres titres qui découlent de l'organisation autour du roi. Donc découvrons maintenant, après ce préambule, cette liste même de la section 3 de l'onomasticon. Donc j'ai utilisé de manière un peu arbitraire, mais pour vous clarifier le propos, deux sources. Hein, donc la présentation donnée par Herbin dans le Bifao 86 du papyrus qu'il publie est complétée aussi par une des sources utilisée par Gardiner, le rouleau de cuir. Donc pour cette section, on commence évidemment après la liste des entités du ciel, eau et terre. On commence au numéro 63 par des entités qui sont dans le monde suprahumain, dieu, déesse, et puis ensuite Ar, Aret, glorifié ou glorifié, donc le statut de Ar pouvant être conféré évidemment à des entités, à des morts par exemple, qui sont transfigurés et qui rejoignent en quelque sorte le monde suprahumain. Et puis, directement après, donc à la frontière entre le monde humain et le monde suprahumain, on a le roi accompagné par la reine, l'épouse royale, la mère royale, les enfants royaux. Et ensuite, on a d'autres titres qui sont ceux de prince, vizir, ami unique. Là, on retrouve un titre de cour très caractéristique, fils royal aîné, Alors, un passage qui est difficile en 76-77, qui a ouvert à beaucoup d'interprétations, soit deux entités qui se suivraient, général en chef, courtisan, soit le général de la cour, hein, ce qui serait plus logique ici, qui pourrait renvoyer, c'était une idée de Maspero qui n'était pas du tout absurde, à la garde personnelle du pharaon. Le titre de scribe de la correspondance ou des archives, ça dépend un peu de la graphie, Dorus taureau puissant. Alors ici, au lieu de mettre le nom du roi, enfin le mot roi, on utilise une périphrase qu'on va retrouver d'ailleurs ensuite sous d'autres formes. On va pouvoir avoir amené Tchernéfer au lieu de roi. On va avoir en 79 le chef du département du dieu bon, donc le bureau personnel en quelque sorte du pharaon. En 80, le premier héros de sa majesté, le Houhem, Nessou-Tepi. Ensuite, le flabellifère à la droite du roi, qui accomplit des travaux efficaces pour le maître des deux terres. Alors certains lient les deux éléments en une merne pour un même titre. Le responsable des chambellans du roi puissant, au roi taureau puissant, selon les versions. Le grand du bureau de son maître et le scribe royal au sein du palais royal. Alors la liste se poursuit ensuite avec le vizir et son administration. Alors pour Pierre Grandet, l'ensemble qui englobe les numéros de 67, donc ici, à partir du roi jusqu'à 85, ici, le scribe royal, correspond à ce qui pourrait être défini comme le roi et son conseil. Donc cette section 67-85 énumère le roi, les membres de sa famille, y compris l'héritier présomptif, et un véritable conseil de gouvernement composé d'une douzaine de personnes environ, probablement dupliqué en deux conseils distincts pour la haute et la basse Égypte. Alors, il élabore sur cette déduction en considérant que cet organe est parfois appelé ce qu'on appelle le conseil des auditeurs, Kenbet Sejemiu, terme parfois employé dans d'autres contextes pour désigner une cour. Ses pouvoirs se déduisent des fonctions de ses membres et il poursuit en disant que, comme on peut le constater, ils étaient principalement les conseillers du roi, des agents exécutifs et des gestionnaires de ses communications avec le monde extérieur. Alors, l'analyse de Pierre Grandet se heurte néanmoins à certaines difficultés, hein, et d'ailleurs il ne prétend pas les résoudre toutes, mais l'une de ces difficultés, c'est notamment la présence du titre vizir qui intervient dès ici, même avant le fils royal aîné, et qui est redupliqué ensuite après la fin de la section, après le numéro 85. Alors, Oleg Berlef, lui, a proposé de résoudre cette difficulté en faisant de la section allant de 72 à 76. Alors, bon, j'ai tendance à demander si on ne pourrait pas se limiter à 75, à faire de cet ensemble de titres, en fait, quelque chose qui se rapporterait uniquement au titre du prince héritier. Donc, on aurait une série de titres, Erpat, prince, tchat, vizir, ami unique, fils royal aîné, qui serait, en fait, là, une séquence correspondant à l'identification de ce prince héritier, donc qui occuperait une place de choix après le groupe général des enfants royaux. Donc on aurait une transition entre, en quelque sorte, la famille royale directe et puis les membres du conseil rapproché du roi par la personnalité donc du prince héritier qui porterait l'ensemble de ces titres. Et on peut citer un certain nombre de sources qui donnent au prince héritier effectivement ces séquences de titres. Par exemple, un passage de Kairi 2, 608-8, où on a Erpat, Atiya, Sabchati, Sanessu, Semsu. Donc je vous passe les détails, mais on a pour le prince héritier ce type de séquence de titres. Donc cela permet d'aplanir en quelque sorte une difficulté dans la liste qui, sinon, semble contrevenir à cette logique hiérarchique qui préside à l'ensemble du texte. Alors, je ne poursuis pas la discussion technique de l'ensemble du texte, qui est extrêmement riche, mais qui, évidemment, crée énormément de difficultés à résoudre dès qu'on veut rentrer dans le détail de l'analyse. Ce qui m'intéresse ici de noter, c'est que le scribe de la correspondance royale intervient juste après la séquence correspondant à l'identification donc du prince héritier, avec évidemment ce double titre général en chef des courtisans ou courtisans, bon, qui pose toujours problème, mais en tout cas cela n'enlève rien à la position extrêmement élevée du scribe de la correspondance royale qui se trouve hiérarchiquement extrêmement bien placé dans ce manuel de hiérarchie égyptienne. On a donc confirmation que le détenteur de ce titre se trouve à la cour en position éminente, directement au contact du roi et de son entourage proche, et on comprend donc que la position de ce Tchaï que nous avons vu à travers sa tombe, la TT23, est particulièrement importante dans l'organigramme, en quelque sorte, de la cour de Pi Ramsès. Alors, en passant, je vous mets quelques titres supplémentaires. Après le numéro 85, eh bien, on continue la liste avec donc le vizir, hein, qui intervient cette fois-ci probablement en son titre propre et non pas comme un titre conféré au prince héritier. Vizir et directeur des cités d'Égypte, ensuite un général scribe de l'infanterie, lieutenant de l'armée, avec une forte présence militaire dans l'organigramme hiérarchique autour du pharaon, et tout cela, ça correspond à un phénomène particulièrement important au Nouvel Empire de la militarisation de l'élite égyptienne, un phénomène qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en détail, mais qu'on a vu poindre évidemment avec la personnalité, par exemple, du général Horemheb. Donc c'est au cadre militaire qui occupe des positions particulièrement éminentes à la cour. On a ensuite le directeur du trésor de l'argent et de l'or et numéro 91, envoyé royal, Ipouti ou Poutinessou, de ou vers toute contrée étrangère. Alors ce titre va nous intéresser particulièrement puisque nous allons aborder maintenant la question de ces envoyés du roi à l'étranger, de ses ambassadeurs. Ce que je voulais simplement vous signaler ici, c'est que cette fonction même se trouve aussi bien positionnée dans la hiérarchie de la cour et de l'administration égyptienne. Donc cette fonction d'ambassadeur, et c'est ce qui va être un peu le fil conducteur de ce qui va suivre, n'est pas celle d'un simple messager, d'un porteur de messages ou de tablettes, c'est celle d'un véritable ambassadeur qui occupe une fonction prééminente à la cour. Alors cela nous fait une transition donc avec cette question donc des ambassades qui est évidemment dans la lignée directe de ce que nous venons de voir sur la correspondance diplomatique. Hein, et vous avez vu que les deux sujets ne sont séparés que très artificiellement. L'idée principale que nous allons donc essayer de développer ici, c'est la présence dans le dispositif diplomatique de l'Égypte pharaonique de véritables ambassadeurs qui, outre le transport de la tablette ou du message à leur interlocuteur, agissent véritablement en tant qu'intermédiaires et négociateurs. Donc l'idée, c'est de véritablement rendre justice au véritable statut de ces hommes qui sont en charge de la communication des messages. Et c'est pour ça que nous utiliserons beaucoup plus le terme d'ambassadeur ou d'envoyé royal plutôt que le terme de messager qui nous semble peut-être beaucoup plus faible. Alors sur le titre d'envoyé royal, la référence principale reste l'ouvrage de Michel Valoggia, hein, qui date de 1976, « Recherche sur les messagers ou Poutiou dans les sources égyptiennes profanes ». Cet ouvrage donc examine le terme « Ouputi », hein, qui est fondamentalement chargé de mission, et ces chargés de mission, ces Ouputiou, il les étudie sous tous leurs aspects, dans les différents domaines où ils interviennent, en tant qu'agent d'un maître privé, représentant de l'administration ou envoyés royaux, notamment dans les contrées étrangères. Alors même si le texte insiste, enfin le livre porte dans son titre la mention des sources profanes, Michel Valoggia considère aussi les contextes religieux ou funéraires dans lesquels le titre intervient, puisque les Ouputiou peuvent être aussi des envoyés des dieux chargés d'appliquer la justice et de punir pour le bénéfice de certains dieux, et notamment le dieu Osiris. Alors je vous indique simplement ce passage célèbre du chapitre 125 du Livre des Morts, hein, le fameux chapitre de la pesée du cœur. Le mort s'adresse ainsi à Osiris. « Je suis venu ici pour témoigner de la vérité, pour mettre la balance dans sa position exacte à l'intérieur du royaume des morts. Ô celui qui est haut sur son pavois, maître de la couronne Atef, à qui on a donné le nom de maître des souffles, donc on s'adresse à Osiris ici, sauve-moi de tes messagers, les Ouputiou, faiseurs de plaies, instigateurs de sanctions, qui sont sans indulgence, car j'ai pratiqué l'équité pour le maître de l'équité, je suis pur, etc. » Alors même si les textes funéraires, les papyrus du Livre des Morts nous laissent l'image assez aseptisée d'un mort heureux parvenant sans encombre dans le royaume des morts, on a, rôdant dans l'univers osirien, toute série de justiciers, hein, de ces messagers d'Osiris, hein, qui sont capables de punir les morts qui n'auraient pas eu, dans leur existence passée, un comportement conforme à la ma'at, à la justice. Donc c'est un exemple de l'emploi de ce statut de messager dans le monde funéraire. Bien entendu, l'essentiel de la monographie de Michel Valoggia est consacré aux envoyés du monde humain pour lesquels les sources sont plus abondantes. Alors avant d'aborder plus particulièrement les périodes pour lesquelles la documentation diplomatique proprement dite est abondante, hein, celle qu'on a déjà vue, donc la période des lettres d'El Amarna et celle de la correspondance diplomatique de Ramsès II, je voudrais mettre en avant deux aspects qui corroborent l'importance du statut d'envoyé royal dans le contexte de la société de cour qui nous intéresse ici. D'abord, il est important de considérer que ce statut d'envoyé royal correspond à une promotion importante à la cour, procède d'un choix du pharaon qui s'appuie sur une faveur accordée à un personnage de son entourage. Et les textes sont très explicites sur ce point. Je peux en donner donc plusieurs exemples. J'en ai choisi deux de la 18e dynastie. D'abord, un témoignage qui date du règne d'Hatshepsut et Thoutmôsis III, 18e dynastie. Une stèle d'un certain Nart, donc stèle qu'il a déposée dans le sanctuaire de Serabit el-Radim, dans le Sinaï, donc site associé à l'exploitation de la turquoise, du cuivre et à proximité d'autres matières premières. Donc ce personnage a déposé une stèle commémorative dans le sanctuaire et relate un épisode qui est particulièrement à sa gloire. Donc ça commence à la ligne 3. Horus lui-même, c'est-à-dire le pharaon, m'a envoyé pour accomplir ce que son cas désirait. Il m'a installé en étant à la tête d'un million d'hommes. Il m'a choisi au milieu de centaines de milliers. On n'est pas du tout dans l'exagération. Hein, donc on peut s'appuyer sur un des faits historiques. Hein, c'est ça qui est toujours intéressant avec les textes égyptiens. En m'appelant comme envoyé du roi et en me faisant avancer parmi les courtisans, parce qu'Hathor, maîtresse de la turquoise, m'avait favorisé à cause de tout ce que j'avais fait pour elle. Donc on a un épisode classique d'octroi de la faveur royale à un des courtisans qui est distingué en quelque sorte dans la masse des autres courtisans. Là on a en quelque sorte deux niveaux de promotion, à la fois sur l'ensemble des hommes de la population commune. En quelque sorte, on a une première promotion du choix du pharaon qui se porte sur Nart. Et puis, à un deuxième niveau, quand il est nommé envoyé du roi, là, on a un deuxième niveau de promotion qui se fait au milieu, simplement, de l'ensemble des courtisans. Donc, ce statut d'envoyé du roi correspond à une promotion exceptionnelle qui le place dans une position enviable à la cour, au point que cet événement mérite de figurer à lui seul au cœur de l'inscription commémorative que ce personnage a laissée donc à Serabit el-Radim. Il va détailler ensuite les résultats de la mission qu'il a effectuée. Donc les missions effectuées aux frontières de l'Égypte ou dans des contrées éloignées étaient fortement valorisées. Ces opérations constituent souvent des points d'orgue dans la présentation de la carrière d'un courtisan. Et nous avions déjà évoqué ce phénomène avec le cas de Khnoumotet III au Moyen Empire, hein, qui est envoyé par Sésostris III sur les côtes du Levant, à Byblos et dans les environs pour chercher du bois. Pour le Nouvel Empire, on a un autre cas très similaire, celui de Sénéphri, propriétaire donc de la TT 99 à Thèbes, qui a été publiée assez récemment par Nigel Strudwick. Malheureusement, c'est une tombe qui est fortement dégradée, mais qui est une grande richesse dans son contenu. Ce personnage a mené sa carrière sous Thoutmôsis III, 18e dynastie, et il portait effectivement le titre de Uputinesu, hein, ce qui est visible ici dans sa titulature. Il est Iripat Atiya Uputinesu. L'une des missions notables qui lui a été confiée par le pharaon a été d'aller chercher des cèdres du Liban, probablement pour doter donc les pylônes du temple d'Amon-Karnak de leur mât, les pylônes qui se trouvent devant les les grandes portes monumentales des temples. Alors là, les textes correspondant à cette expédition sont malheureusement dégradés, mais les travaux de Eichler et l'édition qu'a donnée ensuite Nigel Stradwick de la TT 99 permettent néanmoins de tirer beaucoup d'éléments sur cet épisode. On aurait ici une mise en scène de Königsnovelle, d'une narration royale au bénéfice d'un courtisan donc, qui est envoyé à Byblos, qui s'acquitte de sa mission et qui, au retour, va prononcer une glorification de la décision royale, dont l'instrument, évidemment, c'est lui-même, et donc il bénéficie en quelque sorte par ricochet de la glorification qu'il adresse à son pharaon. Marwan Kilani, qui a consacré en 2019 un ouvrage à Byblos, à la fin de l'âge du bronze, a repris tous ces témoignages qui concernent ces expéditions à Byblos et a notamment rappelé le lien qui existe entre ce récit de Sénéphri et celui fourni par une inscription de Toutmosis III au Djebel Barkal, donc qui évoque toute une série d'expéditions du roi, et notamment une expédition ayant pour but de ramener du bois du Liban. Et le pharaon dit à la première personne: « J'ai répandu ma terreur aux confins de l'Asie sans que mon envoyé, Uputi'i, ne soit entravé. C'est mon armée qui a abattu les mâts de drapeaux sur les pentes boisées des collines de la terre du Dieu. Pour les monuments de mes pères, tous les dieux de haute et basse Égypte, ma majesté a taillé un navire processionnel en bois de lacune sur la rive du Liban, dans la forteresse. Tous les chefs du Liban ont construit des navires royaux pour transporter vers le sud et apporter toutes sortes de biens précieux de Rentiché au palais Vicente Force. » Les chefs, bon, ensuite le texte est plus lacunaire. « Ce sont les chefs de Rétenou qui ont traîné ces mâts avec des bœufs jusqu'au rivage. Ce sont eux qui sont venus apporter leur taxe Bakou au lieu où se trouvait Sa Majesté à sa résidence. » Alors évidemment, là on a un texte royal, la perspective est différente du récit de Sénéphri. Il insiste sur la soumission des chefs du Liban et s'attribue évidemment directement aussi le succès de l'action. Mais en tout cas, on mentionne explicitement l'envoyé royal. Mon envoyé n'a pas été entravé, hein, ce qui montre que cet agent directement porteur de la volonté royale a servi d'intermédiaire dans l'opération, et on peut voir derrière cette mention une image de la mission exercée par Sénéphri. Alors, dans ce cas, évidemment, Sénéphri a pu s'appuyer sur la puissance militaire de son pharaon, mais on pense évidemment à un contexte similaire qui est celui du fameux récit des mésaventures d'Ounamon, hein, une œuvre littéraire composée à la toute fin du Nouvel Empire ou à la 21e dynastie, et dans ce texte majeur de la littérature égyptienne, on met en scène donc un personnage, Ounamon, venu chercher aussi sur les côtes libanaises du bois pour la barque d'Amon et qui doit affronter les potentats locaux du Levant. Mais ces potentats sont alors en position de refuser les exigences de l'Égypte, qui est très affaiblie sur le plan géopolitique. Et c'est un autre sujet, mais on voit ici, dans ce texte, Ounamon faire preuve de trésor d'éloquence pour convaincre ses interlocuteurs. Alors, si les prédécesseurs d'Ounamon, comme Sénéphri, disposaient évidemment de davantage d'atouts en leurs mains pour convaincre leurs interlocuteurs levantins d'exécuter la volonté du pharaon, il n'en reste pas moins que le contexte restait aussi celui d'une négociation diplomatique pour laquelle il devait aussi faire preuve de doigté et de persuasion, et c'est ce que nous allons voir aussi un peu plus tard dans le cours. En définitive, et c'est surtout le point que nous voulons souligner ici, ce type de mission diplomatique et leur succès sont perçus comme des voies de promotion et d'obtention de la faveur royale qui sont extrêmement privilégiées, et ce n'est pas un hasard si, dans toute son existence, Sénéfri a sélectionné cette mission à Byblos comme l'un des points d'orgue de son portrait, parce que ces missions aussi le mettent dans une double lumière, en fait, celle du service du roi, qu'il a effectué avec succès, qui lui a valu les faveurs royales, et puis aussi la lumière du culte divin, puisque s'il va chercher du bois au Liban, c'est pour l'équipement du temple d'Amon, et donc il bénéficie aussi de cette bénédiction qui lui est apportée par l'accomplissement de ce service aux dieux. Alors après avoir souligné cet aspect important du statut d'envoyé royal comme particulièrement éminent dans le contexte de la société de cour, je voudrais aussi souligner un deuxième point, c'est le fait que la formation du chargé de mission occupe une place, je ne dirais pas centrale, puisque ce n'est pas le cas, mais en tout cas non négligeable dans les enseignements, c'est-à-dire les textes sapientiaux que nous avons déjà rencontrés à plusieurs reprises. C'est un point qui est soulevé également dans la conclusion de l'ouvrage de Michel Valodia sur les messagers. On trouve une place importante accordée à l'accomplissement des missions dans les textes sapientiaux qui constituent donc la base de la formation scolaire mais aussi de l'inculcation des fondements de la société de cour aux futurs membres de l'entourage royal. Alors, vous pourrez m'objecter qu'il s'agit pour une grande part de textes du Moyen Empire que ces sagesses que l'on va évoquer maintenant, mais on peut très bien objecter à ce constat le fait que ces textes du Moyen Empire étaient devenus au Nouvel Empire des classiques qui servaient de base à l'éducation des scribes. Nous avions vu un cas très intéressant l'an dernier, celui de la tombe d'Iti Ib à Assiout, une tombe du début du Moyen Empire, qui a été un espace privilégié par les scribes du Nouvel Empire, notamment de la 18e dynastie, pour aller recopier toute une série de textes classiques d'enseignement datables probablement du Moyen Empire. Donc cette tombe d'Assiout a été étudiée en détail par Ursula Verhoeven, on l'avait vu, et elle a pu repérer sur l'ensemble des parois toute une série d'extraits de ces textes classiques, l'enseignement d'Amenemhat, la prophétie de Néferti, l'enseignement de Kairsou qu'elle a contribué à identifier, la Kémite, l'enseignement d'Orjedef, etc. Et puis, l'enseignement de Réti, à deux reprises. Donc ces textes, même s'ils remontent au Moyen Empire, pour une grande part, sont des textes qui alimentent l'éducation des courtisans du Nouvel Empire. Et donc, dans cet enseignement de Réti, hein, connu aussi sous le titre « Satire des métiers », on a l'évocation de l'envoi en mission. Alors, ce texte, je l'ai dit, est probablement à dater du Moyen Empire, même si les copies sont attestées à partir de la 18e dynastie, et que la copie principale, le papyrus Salier II, date de la 19e dynastie. Bon, c'est en tout cas la preuve que ce texte était particulièrement prisé au Nouvel Empire. Donc je lis le passage de cet enseignement. « Si un haut dirigeant t'envoie en mission, dis comme il l'a dit, n'enlève ni n'ajoute à cela, la propension à faire vite, c'est-à-dire la rapidité d'esprit, provoque l'omission. » Mais point de motif de reproche à être attentif. Celui qui est parfaitement pourvu dans tout ce qui fait une bonne nature, il n'existe rien qui puisse lui être dissimulé, rien dont il soit tenu à l'écart concernant toutes ses positions. Donc là, l'enseignement de Réti encourage l'apprenti courtisan à exercer son métier d'ambassadeur en respectant la stricte lettre du message qui lui a été confié. Et ça, c'est un enjeu qu'on va retrouver aussi dans la correspondance diplomatique, c'est la concordance entre le message porté par l'ambassadeur et puis ce qui peut être consigné initialement dans les tablettes écrites qu'il est censé porter. Un autre enseignement particulièrement connu du Moyen Empire, c'est l'enseignement de Ptahotep, qui évoque aussi cet envoi en ambassade. « Si tu te trouves être un homme de confiance qu'un dirigeant dépêche à un dirigeant, sois extrêmement précis quand il te dépêche, effectue pour lui la mission comme il dit, garde-toi de médire par une parole » susceptible de rendre un dirigeant envieux ou hostile à l'égard d'un autre dirigeant. Tiens-t'en à la Mahat, ne la transgresse pas. Ce n'est pas, alors là le texte est un peu difficile, en fonction d'un épanchement ou de gaieté, pas de cour mais de cœur, qu'on fait rapport. Ne dénonce aucune personne que ce soit, grande ou petite, c'est l'abomination du cas. Donc là aussi, l'idée générale transmise par l'enseignement, c'est le respect strict de la mission qui a été confiée. Et comme dans l'ensemble de l'enseignement de Ptahotep, un appel à l'autocontrôle, à la stricte surveillance de la parole pour ne pas créer de problème par un discours qui transgresserait en quelque sorte l'étiquette. Alors on a aussi des textes d'enseignement qui datent, eux, de la période qui nous intéresse ici, donc le Nouvel Empire, notamment l'enseignement d'Aménémopée, donc qui est différent de l'onomasticon qu'on a vu tout à l'heure, un enseignement qui a été composé au plus tôt à la 20e dynastie, peut-être même à la 21e, L'incipit du texte définit son propos en montrant bien le rôle que se donne l'enseignement en lien avec la société de cour pharaonique, début d'un enseignement pour la vie, d'une instruction pour le bien-être, règles de toutes sortes pour fréquenter les hauts dirigeants, usage à l'égard des courtisans pour pouvoir répondre à la question de celui qui l'a posée, pour rendre un rapport à celui qui l'a diligenté, etc. etc. Donc là, l'évocation de la capacité de rendre un rapport à celui qui l'a diligenté renvoie directement à la réalisation d'une mission, hein, correspond aussi à cahier des charges d'un ambassadeur. Donc là, on a un début de texte, un prologue pour cet enseignement qui montre clairement que, à la fois, on se place dans la formation des chargés de mission, des envoyés, mais aussi dans le contexte d'une société de cour. Il ne s'agit pas simplement de former un scribe pour l'administration, mais aussi pour fréquenter cette élite et savoir se comporter en quelque sorte dans les difficultés causées par la fréquentation de ce milieu de la société de cour. Alors, on a quelques autres mentions des missions dans l'enseignement d'Aménémopée, mais finalement pas énormément. Au chapitre 12, le texte dit « Ne te montre pas avide du bien d'un haut dirigeant. Si tu es envoyé pour convoyer de la paille, renonce au profit qu'on peut en tirer. Si un homme se fait remarquer par une mission malhonnêtement effectuée, il sera exclu qu'on recommence à l'envoyer une fois encore. » Donc là, on est plutôt dans le contexte d'une une transaction commerciale qui a été déléguée à un envoyé, et donc toute malversation amène ensuite un discrédit porté sur l'envoyé. Les textes sapientiaux, on le voit, évoquent les missions comme des opérations périlleuses, sensibles, mais qui permettent aussi de distinguer ceux qui les mènent avec succès. Il est aussi aisé de déduire finalement qu'une partie de l'apprentissage se faisait dans la pratique assidue l'élite et par le fait de côtoyer les courtisans les plus expérimentés à travers des occasions diverses. Et si on revient à l'enseignement de Réti, il ne dit pas autre chose. Dans ses considérations conclusives, il souligne qu'il est bon que tu sois souvent envoyé en mission, là c'est le terme « ab » qui est employé, et que tu entendes les paroles des dignitaires, les sérous. On avait vu que ce terme désignait génériquement le milieu de la cour. « Ainsi acquerras-tu les manières des enfants des hommes de bien en suivant leur conduite ?» C'est à la manière d'écouter qu'on voit le scribe, et c'est un vaillant que devient celui qui pratique l'écoute. Donc là, c'est surtout, finalement, par la fréquentation régulière des courtisans, leur imitation, leur observation dans des circonstances variées, que peut, au final, se former l'apprenti courtisan, qui est amené à s'adapter donc à de multiples situations et à forger ainsi ses aptitudes diplomatiques. Donc ça, c'était le deuxième point qui était particulièrement important, c'est donc cette valorisation de la capacité du missionnaire, en quelque sorte, à réaliser sa mission en intégrant les cadres qui sont ceux de la société, de l'élite. Alors venons-en maintenant à ce qui concerne donc les témoignages que fournissent les grands corpus diplomatiques, donc qu'on avait déjà largement évoqué, les tablettes d'Amarna notamment, et puis la correspondance égypto-hittite. Alors concernant la période amarnienne, bon, la bibliographie est pléthorique. Donc, ce thème des messagers, des ambassadeurs, a été particulièrement traité par de nombreux auteurs. Alors, évidemment, on trouve beaucoup d'éléments déjà dans les éditions du corpus, notamment les traductions qui avaient été fournies par Liverani, Morane, Reiné, etc. Et puis, des études spécifiques ont été consacrés à cette thématique. Je pense par exemple à l'article de Gusella Gestoso Singer, Fortunes and Misfortunes of Messengers and Merchants in the Amarna Letters, paru en 2016. Plus ancien, l'article de Holmes, The Messengers of the Amarna Letters. L'ouvrage de Samuel Meyer, The Messenger in the Ancient Semitic World, avec beaucoup cas traités dans un cadre très, très systématique. Et puis l'ouvrage que nous avions déjà évoqué de Cohen et Westbrook, Amarna Diplomatie, avec un chapitre court mais particulièrement riche de Raymond Westbrook, International Law in the Amarna Age, qui consacre une partie de son propos aux envoyés dans le contexte d'Amarna. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de cette bibliographie. Un point important qui transparaît dans les archives de l'Amarna et qui est souligné fréquemment par les commentateurs, c'est l'importance des envoyés ou des ambassadeurs au-delà même de leur mission de transport du message. Ils servent d'intermédiaires, de facilitateurs et de témoins également. Comme le souligne Samuel Meyer, certains souverains réclament dans les lettres qu'on leur envoie que leur interlocuteur privilégie certains ambassadeurs au lieu d'autres. C'est notamment le cas pour l'ambassadeur Manet que Tushratta, roi de Mitanni, cite constamment dans une lettre que nous allons voir un peu plus loin. Et il réclame à son interlocuteur égyptien de lui envoyer spécifiquement cet ambassadeur Manet. Donc les messagers ne sont pas finalement des intermédiaires interchangeables en quelque sorte, mais puisqu'ils sont cités nominalement dans les textes, c'est un signe de leur importance stratégique et le fait que leur personnalité, leur capacité diplomatique soit mise en avant dans les textes d'Amarna montre bien qu'ils occupent un statut particulier. Alors de manière générale, Westbrook a noté la difficulté à identifier les règles juridiques entourant les ambassades. Donc il note que les deux principales sources du droit international sont la coutume et les traités, et il relève que le droit international coutumier est difficile à identifier dans les sources anciennes, car il ne découle pas d'instruments juridiques. Et chose qui est particulièrement intéressante pour nous, c'est le constat qu'il est parfois difficile de distinguer une règle juridique d'une règle de l'étiquette. Donc les ambassadeurs sont soumis à l'étiquette en vigueur dans chacune des cours, et le fait de la transgresser peut amener des incidents diplomatiques, et c'est plutôt souvent ce qui se passe plutôt que l'infraction a un corpus de règles juridiques qui, en fait, n'a pas l'air d'être précisément défini. Car de toute façon, dans l'un et l'autre cas, la réponse qui est faite par les interlocuteurs sont des protestations diplomatiques. Alors, il semble qu'il existe des règles coutumières, mais en tout cas, on n'y fait pas référence explicitement dans les textes d'Amarna. On pense par exemple à la question de l'inviolabilité des ambassadeurs ou de leur immunité diplomatique. Tout cela ne semble pas relever de pratiques diplomatiques. Alors, on a quand même quelques procédures qui peuvent être identifiées dans le fonctionnement des ambassades, notamment l'existence de lettres de créance, exactement le fonctionnement qui est encore en vigueur dans le monde diplomatique actuel, c'est que pour être accrédité, l'ambassadeur doit être porteur d'une lettre officielle du souverain qu'il représente, Et cette lettre, il doit pouvoir la présenter à son interlocuteur auprès duquel il est dépêché. Alors, on a dans les textes, dans les tablettes conservées de la Marna, une telle lettre de créance, c'est la tablette EA30, qui est la lettre de créance d'un envoyé mitanien pour les vassaux de l'Égypte. Donc c'est un document qu'il a dû présenter pour franchir certainement différentes étapes pour arriver jusqu'en Égypte. Au roi de Canaan, serviteur de mon frère, ainsi parle le roi, avec la présente, j'envoie Akia, mon messager, en hâte et d'urgence auprès du roi d'Égypte, mon frère. Personne ne doit le retenir, fournissez-lui un sauf-conduit pour l'Égypte et remettez-le au commandant de forteresse de l'Égypte, qu'il continue immédiatement, et en ce qui concerne ses présents, il ne doit rien. Alors il s'agit d'une lettre d'un format relativement petit, disposé en paysage et non en portrait, comme c'est l'habitude pour les grands documents mitanniens. Cela a été bien montré par l'étude de De Martino, donc parue récemment sur les documents en cunéiforme issus du Mitanni. Selon les commentateurs, donc Gestoso Singer notamment repris par De Martino, la présence de cette tablette à Amarna indique probablement qu'elle n'était valable que pour le messager qui l'a transportée et que pour un seul voyage. Donc elle était déposée ensuite auprès du pharaon égyptien et elle n'a pas pu être réutilisée ou conservée réutilisée par l'ambassadeur, mais elle était conservée dans les archives diplomatiques égyptiennes. Gestoso Singer signale d'ailleurs que les archives d'Ougarit contiennent un passeport similaire laissé par un messager de Beyrouth envoyé à Ougarit, donc ce n'est pas un document d'un type unique. Néanmoins, c'est un document assez rare et en fait, on peut se demander si ce système des lettres de créance était généralisé. Pour Westbrook, certes, c'est une nécessité diplomatique évidente d'accréditer l'ambassadeur que l'on envoie par un document officiel, mais nous n'avons pas de preuve qu'une telle lettre fût systématiquement exigée pour authentifier un envoyé. Parfois, on pense que la lettre de créance était en fait simplement contenue dans l'introduction de la tablette. Alors, la semaine prochaine, on verra quelques exemples supplémentaires de la présence des ambassadeurs dans les tablettes amarniennes. On regardera aussi le cas des envoyés attesté dans la correspondance égypto-hittite, et puis on s'intéressera plus précisément aux moyens rhétoriques et persuasifs utilisés par ces diplomates dans les négociations qu'ils mènent entre les États. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-France.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.